Bonjour, au micro Idrissa Sebulia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Nous commençons encore par le coronavirus. Le monde se rapproche des 100 000 morts sur plus d'un million et demi de cas d'infection. Avec plus de 18 000 décès, l'Italie est toujours le pays comptant le plus de victimes, suivi des États-Unis avec plus de 16 000 morts, de l'Espagne avec plus de 15 000 et de la France avec plus de 12 000. Pour la deuxième journée consécutive, mardi et mercredi, les États-Unis ont enregistré près de 2 000 morts en 24 heures sur plus de 468 000 cas confirmés. L'État de New York, épicentre de la pandémie américaine, a eu son pire bilan quotidien avec près de 800 morts. Mais le nombre des hospitalisations n'y a jamais été aussi bas depuis le début de la crise. Pour son gouverneur Andrew Cuomo, nous sommes en train d'aplatir la courbe. Tendance à la baisse de la tension hospitalière également pour l'Espagne, l'Italie et la France, mais partout appelle tout de même à ne pas relâcher les efforts. La pandémie, selon le FMI, aura les pires conséquences économiques depuis la Grande Dépression de 1929 et puis à cause des mesures de confinement qui concernent plus de la moitié de l'humanité, des secteurs entiers de l'économie sont à l'arrêt, les échanges s'effondrent et le chômage s'envole. En conséquence, un demi-milliard de personnes risquent de tomber dans la pauvreté, selon l'ONG Oxfam. L'Organisation mondiale de la santé s'est inquiétée, elle, du manque criant de moyens dont dispose l'Afrique pour lutter contre le coronavirus, dont un nombre très restreint de lits en soins intensifs et d'appareils respiratoires alors que la maladie s'étend sur le continent. L'OMS a recueilli les données d'une quarantaine de pays africains. Il y a plus de 11 500 cas et plus de 570 décès en Afrique, selon un décompte de l'AFP. En Côte d'Ivoire, au titre du renforcement des dispositions de distance sociale, le port du masque est désormais obligatoire dans la capitale économique Abidjan, peuplé de 5 millions d'habitants, a annoncé jeudi le Conseil national de sécurité consacré à l'épidémie. Dans le reste de l'actualité, au Mali, un sous-préfet et deux autres personnes ont été tués jeudi par l'explosion d'un engin explosif improvisé dans le centre du pays où l'ONU s'alarme d'une aggravation des violences au cours des dernières semaines, notamment entre communautés. Entre le 1er mars et le 3 avril, plus de 70 personnes ont été tuées dans des attaques attribuées à des groupes extrémistes, des chasseurs traditionnels d'oiseaux et des milices d'autodéfense, selon la représentante spéciale adjointe de la MINUSMA. L'opération militaire lancée contre le groupe djihadiste nigérien Boko Haram au lac Tchad a coûté la vie à 52 militaires tchadiens, a annoncé jeudi à l'AFP le porte-parole de l'armée tchadienne, affirmant qu'un millier de djihadistes ont été tués. Déployée le 31 mars, l'armée tchadienne a achevé son opération mercredi sous les ordres du président Idriss Déby Itno, qui voulait venger la centaine de militaires tués dans une attaque de Boko Haram le 21 mars sur la presqu'île de Boroma, la pire défaite subie en une journée par son armée. Mais selon M. Déby, il n'y a plus un seul djihadiste sur l'ensemble de la zone insulaire. Les producteurs de pétrole réunis jeudi par visioconférence se sont entendus, à l'exception du Mexique, sur une réduction en mai et juin de la production mondiale à hauteur de 10 millions de barils par jour, a annoncé ce vendredi l'OPEP. Et puis la Banque centrale américaine a annoncé 2300 milliards de dollars de nouveaux prêts pour soutenir l'économie et celle-ci pourrait rebondir assez rapidement. Selon les autorités en Europe, après d'âpres tractations, les ministres des Finances sont parvenus à en trouver un accord incluant 500 milliards d'euros disponibles immédiatement et un fonds de relance.
La suite de nos informations. En République démocratique du Congo, le directeur général du Fonds national d'entretien routier a été envoyé en prison pour détournement de fonds, alors que des députés réclament la libération de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, incarcéré la veille dans le cadre de la même enquête. Le point avec Eddie Isango.
Humiliation, arrestation arbitraire sont des termes utilisés par les 16 députés qui réclament la libération immédiate et sans condition de Vital Kamerhe, directeur de cabinet et principal allié du président Félix Tshisekedi, envoyé la veille en prison. L'UNC, Union pour la Nation Congolaise, estime que son leader Kamerhe est victime d'acharnement politique. Vital Kamerhe, depuis sa cellule, a appelé dans une lettre ses partisans au calme. Les forces de l'ordre ont été placées au siège de son parti pour éviter tout attroupement. Vital Kamerhe n'est pas encore jugé ni condamné, mais est placé sous mandat d'arrêt provisoire en attendant l'aboutissement de la procédure du procureur. Il a été rejoint en prison hier par Fulgence Baramossi, directeur général du Fonds national d'entretien routier FONER, poursuivi pour un possible détournement de près de 20 millions de dollars destinés à la réhabilitation des routes dans les Kivu et le Kasaï. Avant eux, d'autres dirigeants d'entreprises et de banques ont été également jetés en prison dans le cadre des mêmes enquêtes.
Au Botswana, à peine sorti d'une première période de quarantaine anti-coronavirus, le président Mokgweetsi Masisi va être contraint d'y retourner pour 2 semaines supplémentaires, cette fois en compagnie de tous les députés du pays. Ekia Batu.
Monsieur Masisi avait été placé à l'isolement le mois dernier après un déplacement en Namibie où il a assisté à la prestation de serment de son homologue namibien. Sa présence à cette cérémonie avec le Zimbabwéen Emerson Mnangagwa et l'Angolais João Lourenço avait suscité des commentaires acerbes dans leur pays puisque tous les trois avaient violé l'interdiction de voyage imposée à leurs concitoyens. Le président botswanais a été libéré de son confinement le 1er avril après avoir été testé négatif au coronavirus. Jeudi, son ministre de la Santé a annoncé devant le Parlement que le président et les 63 députés ont côtoyé la veille une infirmière contaminée venue les soumettre à un test de dépistage. Le chef de l'État et les députés ont été placés en quarantaine. Le Parlement a voté jeudi l'état d'urgence sanitaire pour 6 mois. Jusque-là, 13 cas de contamination ont été recensés au Botswana, dont un mortel.
En Afrique du Sud, le ministre de la Police répète que si la criminalité a reculé dans le pays depuis l'entrée en vigueur du confinement, c'est d'abord parce que les autorités ont interdit en même temps la vente d'alcool. Jacques Aristide.
Dans une Afrique du Sud ultra-violente que le ministre a comparé il y a 2 ans à une zone de guerre, le revirement est spectaculaire. Les chiffres brandis par le général Bécky Sélé sont sans appel. Du 27 mars au 4 avril, le nombre de meurtres a chuté de 326 à 94, celui des viols de 598 à 101 et celui des agressions de 2673 à 456. Assez provocateur, il a dit qu'il aimerait bien pouvoir étendre l'interdiction de l'alcool après le confinement anti-coronavirus. Il a même ajouté à sa liste le tabac dont la vente est également interdite pendant les 21 jours de confinement. D'après lui, les cigarettes n'ont rien d'essentiel car elles attaquent les poumons. Pour lui répondre, Howard Dembowski, responsable de l'ONG Justice Project, rappelle simplement qu'en temps normal, le fisc sud-africain empoche près de 2 millions de dollars par jour grâce aux taxes sur les ventes d'alcool et de tabac.
La Minute Éco et qui abonne.
La Chine est prête à continuer à soutenir les pays africains dans leur lutte contre l'épidémie de Covid-19 et plus généralement à aider l'Afrique à améliorer ses capacités de prévention et de contrôle des maladies, a déclaré le président chinois Xi Jinping au cours d'une conversation téléphonique avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Au Mali, pour faire face aux conséquences du Covid-19, le gouvernement prévoit 400 milliards de francs CFA. Ce soutien aux acteurs économiques se matérialisera, notamment par les renonciations à des recettes dues à l'État. D'autres mesures d'accompagnement sont prévues dans ce cadre. tous les secteurs vont en bénéficier, notamment les secteurs les plus touchés, tels l'hôtellerie, les transports, la restauration, les PME-PMI et les banques. L'Afrique subsaharienne devrait entrer en récession en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus, une première en plus d'un quart de siècle, a prévenu la Banque mondiale. La pandémie teste les limites des sociétés et des économies à travers le monde et les pays africains seront particulièrement frappés, a estimé Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Direction le Bénin pour commencer avec des nouvelles du sélectionneur des écuries, Michel Dussier, qui nous parle de ses poulains et de ses activités en ces temps d'arrêt des compétitions sportives.
Toujours à la recherche, toujours à l'écoute de ce qui se fait, des joueurs qui seraient susceptibles de venir nous rejoindre, en essayant de cibler aussi des jeunes joueurs, parce qu'ils représentent aussi l'avenir. Sans négliger les talents locaux aussi. Et aujourd'hui, tout est arrêté, donc on va espérer que tout ça reprenne rapidement et qu'on soit prêt pour les prochaines échéances.
Cet arrêt des entraînements collectifs et de la compétition n'empêche cependant pas Michel Dussier de continuer son travail, notamment sur le plan de la prospection.
Pour moi, le travail ne s'arrête pas complètement. Il y a toujours dans ma tête le souci de continuer à améliorer notre équipe, notre effectif, à l'agrandir. Maintenant, la porte, elle est fermée pour personne. Une fois que les activités auront repris et que les joueurs évolueront dans leur club, donc là, les choses viendront se préciser par rapport aux échéances internationales.
Michel Dussier, sélectionneur des écureuils béninois, au micro d'Élisée Mpatine, notre correspondant au Bénin. En Angleterre, Southampton a annoncé un report de 3 mois des salaires d'avril, mai et juin de ses joueurs, de son entraîneur Ralph Hasenhüttl et de ses dirigeants. Le club a précisé que ses autres salariés ne sont pas concernés par cette mesure et continueront de toucher l'intégralité de leur paye. Au moment de l'interruption du championnat d'Angleterre, le 13 mars, après 29 journées, Southampton occupait la 14e place du classement. Ici aux États-Unis, attaqué en justice pour discrimination salariale par ses joueuses championnes du monde, la Fédération américaine de football a retiré ses arguments selon lesquels l'équipe nationale féminine serait inférieure en compétences à la masculine. Début mars, en effet, la Fédération avait argué que jouer dans l'équipe nationale masculine exigeait un niveau plus élevé de compétences et revêtait une plus grande responsabilité. Ces mots ont suscité une indignation généralisée de la part des joueuses, des dirigeants, comme le patron de la MLS et des sponsors, poussant le président de la fédération, Carlos Cordero, à démissionner. Ce dernier a été remplacé par la vice-présidente Cindy Parlor-Korn, ancienne joueuse internationale américaine. Le procès intenté par les joueuses de l'équipe nationale est prévu le 5 mai.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU, après English USA, sur FM, sur VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique désormais, partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal Plus.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
compagnie d'Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, le dossier de l'audit du ministère de la Défense qui a révélé des irrégularités dans les marchés d'achat d'équipements pour les soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme et qui fait polémique depuis des semaines, a enfin atterri à la justice. C'est le procureur de Niamey qui en a fait l'annonce. Une annonce qui est diversement appréciée par les citoyens, comme nous allons le voir dans ce reportage de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Pour certains citoyens, le communiqué du procureur n'est pas rassurant, mais surtout pas convaincant. Ibrahim Bana, web activiste.
Le communiqué en lui, moi, il ne me rassure pas de la bonne foi du procureur de la République. Parce que quand il dit que certains dossiers sont susceptibles de constituer une infraction, ça veut dire que c'est lui seul, le procureur, qui va regarder les dossiers et qui va choisir quels sont les dossiers pour lesquels il va engager des poursuites. Ce n'est pas si différent de ce que le gouvernement a dit, qu'on va faire payer ceux qui ont fait les surfacturations. Ce n'est pas ce que le peuple demande. Le peuple nigérien attend d'abord qu'on publie le rapport. Comme ça, nous allons surveiller le travail au nom de la redevabilité que lui-même, le procureur, il a vis-à-vis du peuple. Si le traitement est équitable, nous continuerons à harceler le pouvoir et le gouvernement jusqu'à ce que les vrais responsables, les vrais coupables soient traduits devant la justice.
Adamu Manzo, lui, pense qu'avec ce communiqué, toute polémique doit cesser autour de ce dossier.
Tout est bien, comme on dit, qui finit bien. Maintenant, le gouvernement a fini la procédure à son niveau par rapport à l'audit du ministère de la Défense. Il a clôturé le rapport, et maintenant le rapport est transmis à la justice, et maintenant à la justice de faire son travail. Il n'y a pas, je pense que maintenant tous ceux qui ont pensé un moment que c'est à eux de déterminer ou bien de faire pression sur le gouvernement pour qu'il agisse dans le sens qu'eux ils veulent, le gouvernement agit dans le sens de la loi, du respect des textes de la République. Et donc aujourd'hui, chaque pouvoir est dans ses prérogatives. Maintenant, la justice à elle d'agir et de traiter le dossier avec diligence et de lui réserver le traitement qu'il mérite et que le droit de tout le monde soit respecté.
L'acteur de la société civile, Nuhu Arzika, dont 6 de ses camarades sont incarcérés pour avoir tenté d'organiser justement une manifestation le 15 mars dernier pour dénoncer la première option du gouvernement pour gérer le dossier, interpelle quant à lui la conscience des juges qui seront appelés à traiter l'affaire.
Les magistrats qui seront appelés à connaître de ce dossier, qu'ils soient des magistrats instructeurs ou des magistrats qui seront appelés à juger, qu'ils soient capables de se rappeler en toutes circonstances qu'ils sont en train d'exécuter une mission nationale, une mission patriotique, une mission citoyenne. Au nom du peuple nigérien, vous savez que dans cette affaire du ministère de la Défense, plus qu'ailleurs, c'est des morts, des blessés, des veuves, des orphelins que nous enregistrons aujourd'hui en raison quelque part de comportement observé par ces gens-là qui ont accepté d'organiser cette omerta-là, ce pillage-là, ce racket pour être dans la position de ne pas permettre à l'armée d'utiliser toutes les ressources qu'on a mis à leur disposition dans le but d'accomplir correctement les devoirs de leur charge et la mission à eux confiée.
Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Tchad, les forces de l'ordre sont accusées d'abus contre les populations civiles dans le cadre de l'application des mesures contre la propagation du nouveau coronavirus. À Niamey, plusieurs citoyens affirment avoir été bastonnés. De la capitale tchadienne, notre correspondant André Kotmadjingar.
Depuis l'instauration du couvre-feu et la fermeture de bars et alimentation, les forces de l'ordre sont mobilisées sur le terrain. Mission, assurer le respect de ces mesures gouvernementales. Mais de plus en plus, des voix s'élèvent pour dénoncer des abus, des bastonnades, mais aussi des extorsions financières. Au micro de VOA Afrique, quelques victimes expliquent leurs mésaventures.
Environ 21 heures, je voulais ramener la femme de mon frère à l'hôpital parce qu'elle est en travail. Quelques instants, je vois un véhicule venir. Arrivé à mon niveau, il y a un qui est descendu. Quelqu'un a commencé à me frapper. Son collègue est descendu encore. Lui aussi s'est jeté sur moi en train de me taper.
On a un cas d'urgence à l'hôpital. Juste 100 mètres de l'hôpital, le commissaire était là. Il m'a posé la question. Vous ne savez pas que c'est le couvre-feu? Comme
comme c'est une urgence, c'est pourquoi on est parti. Les gars descendaient, laissez-nous la moto, suivez-nous à la commissariat. C'est matin, je me suis rendu à la commissariat. Dit que la moto est là, paye tes 6 000 et tu prends la moto. J'ai appelé ma grande de venir, elle a payé les 6 000 et ils ont aussi retiré l'essence. C'est presque plein. Hein.
Les femmes vendeuses de la bière locale disent aussi être victimes de ces abus policiers.
J'ai ouvert un cabaret, mon mari n'a pas de travail et c'est avec ça que je nourris mes enfants. Il y a deux femmes qui ont préparé chez moi. Nous sommes par dedans et non au cabaret. Ils ont ramassé les femmes là. Ils ont même arrêté mon mari. Il a payé une somme de 3 000 francs avant d'être libéré. Mais les femmes là, ils ont demandé de payer 30 000 d'abord libérer mes casseroles.
Le directeur de publication du journal en ligne, Tachat.com, Kita Ezekiel, affirme aussi avoir été pris en partie par la police. Il dit avoir été arrêté, bastonné avant d'être libéré.
Ils se sont mis à me frapper. Après, on m'a pris pour me jeter dans le véhicule. J'avais assez des images, même les audios, les vidéos. Ils ont formaté mon ordinateur. Ils ont vérifié que l'ordinateur est vierge. C'est à ce moment qu'on m'a remis mon ordinateur. Ils m'ont remis aussi mon téléphone et ils m'ont demandé de partir.
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yahya Hissène, est conscient de la situation, mais parle d'actes isolés. Il invite la population à plus de responsabilités.
C'est vrai qu'il y a eu d'abus, mais il faut comprendre que dans cette chaîne-là, il ne peut y avoir que des cas isolés de ce genre. Mais, à contrario, il faut également dire à la population d'aider aussi les forces de défense et de sécurité qui assurent leur sécurité. On ne prend pas des mesures comme ça au hasard. Donc, il y a également cet incivisme-là qu'il faut relever. Vous avez également des gens qui n'avaient pas de logis, qui profitent de l'occasion pour semer le trouble. Et donc, force doit revenir à la loi.
Les responsables de la commission sécurité du COVID-19 mettent en garde tous les agents qui seront surpris en train d'infliger des amendes indues ou appliquer des traitements dégradants à la population. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Cameroun, les séparatistes du nord-ouest et du sud-ouest ont repris leurs attaques alors que le gouvernement a annoncé un plan de reconstruction de ces régions anglophones. L'armée affirme que des raids ont été signalés dans au moins 7 villages. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, repris ici par Lionel Gahima.
Le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi a fait savoir que les ingénieurs du génie civil ont dû quitter le nord-ouest après des attaques répétées dans cette région. Le président Paul Biya leur avait confié la mission de reconstruire les routes des régions anglophones dévastées par 3 ans de conflit.
Les travaux ont commencé. Malheureusement, certains criminels sont venus et ont détruit les biens de l'entreprise. Mais nous devons continuer sans montrer aucun signe de faiblesse. Le chef de l'État lui-même est extrêmement engagé.
La semaine dernière, M. Paul Biya a créé ce qu'il a appelé le plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions anglophones. Celui-ci prévoit la construction des routes, d'écoles, d'hôpitaux, d'édifices publics, de marchés dans des zones dévastées par 3 ans de combat. Après l'annonce de ce plan, les séparatistes ont averti qu'ils n'accepteront pas de tels projets venant d'un gouvernement qu'ils qualifient d'étranger. Ils ont commencé à attaquer les postes militaires et à incendier des infrastructures, notamment les bureaux, des conseils locaux et les écoles. Les militaires ont fait état des violents affrontements dans lesquels 13 combattants ont été tués. Pour leur part, les séparatistes affirment sur les réseaux sociaux que les pertes sont supérieures du côté des troupes gouvernementales, des allégations que l'armée rejette. Bernard Okalia Bilai, gouverneur de la région anglophone du Sud-Ouest.
Les populations ont compris qu'elles ont été induites en erreur et ont réalisé que leur avenir, leur espoir sont au sein des institutions et que ce que le chef de l'État a mis à leur disposition constitue leur avenir et qu'elles doivent collaborer avec les autorités, les forces de l'ordre pour dénoncer les auteurs des troubles. Il y a eu assez de dégâts.
Christopher Efimba, chef de l'ONG Hope Cameroun, estime que l'État doit s'assurer que la paix revienne pleinement dans ces régions anglophones.
Le développement des infrastructures ne peut pas être mis en œuvre si nous n'avons pas une atmosphère paisible. Par conséquent, calmer l'atmosphère. Nous avons besoin de la paix pour permettre aux travailleurs de construire les routes. Si le peuple n'accepte pas la paix, il est impossible à tout caterpillar, n'importe quel bulldozer, d'aller essayer de construire une route.
Les troubles ont commencé dans les régions anglophones du Cameroun en 2017 après une répression des manifestations pacifiques des avocats et des enseignants qui se disaient marginalisés par la majorité francophone. En octobre 2019, Paul Biya a organisé un dialogue national, mais les séparatistes n'y ont pas pris part. Selon les Nations Unies, les troubles ont fait plus de 3000 morts et quelques 500 000 déplacés.
Le Burkina Faso est le pays le plus touché à ce stade par la pandémie de coronavirus en Afrique de l'Ouest. Outre l'urgence sanitaire, le pays est confronté, comme ses voisins le Mali et le Niger, à des attaques djihadistes qui ont déplacé des centaines de milliers de personnes. Plusieurs organisations humanitaires sont d'avis que le COVID-19 est un défi de plus pour les réfugiés et déplacés. Jacques Aristide nous en dit plus.
Le Burkina Faso subit de fréquentes attaques djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires qui ont fait plus de 800 morts et près de 860 000 déplacés depuis 2015. Les civils, qui n'ont eu d'autre choix que de prendre la route pour se réfugier dans les villes avoisinantes, vivent dans des camps de fortune dépendant des aides. L'eau est rare, les moyens sanitaires limités, la nourriture arrive par l'eau. À la périphérie de la capitale burkinabé, une école abandonnée dans le village de Kienfangé abrite au moins 600 déplacés, avec jusqu'à 30 personnes partageant une même pièce. Bourema Gassambé, qui a dû fuir sa maison dans le nord du pays, en fait partie.
Nous avons pu échapper au terrorisme et nous sommes venus à Ouagadougou. Mais ici, nous sommes confrontés à la maladie du coronavirus et c'est un problème pour nous ici.
Les travailleurs humanitaires craignent que si le coronavirus atteint ces camps, cela va être une catastrophe. Jerry Jonas Mbacha, un responsable de l'Organisation mondiale de la santé au Burkina Faso.
Ma plus grande inquiétude en ce moment concerne le cas signalé parmi les déplacés internes ou les réfugiés. Ce sera une longue lutte que nous allons devoir mener contre cette épidémie, au-delà des prévisions épidémiologiques.
Il y a des raisons de s'inquiéter. Les camps de réfugiés et de personnes déplacées accueillent parmi les populations les plus vulnérables de la planète, a fortiori ici, au Sahel, dans l'une des régions les plus pauvres du monde. Aguirata Maïga, qui a également fui la région nord du Burkina avec les siens, se dit alarmée par la situation.
Nous sommes une trentaine de personnes dans la même pièce. Nous n'avons pas de savon pour nous laver les mains. Donc si quelqu'un parmi nous attrape cette maladie ici, ce sera très difficile pour tout le monde.
Le système de santé du pays, déjà fragile, a été affaibli par les attaques djihadistes. Les mesures anti-coronavirus, conjuguées à la protection des personnels, compliquent et ralentissent l'action humanitaire. Les missions sont très limitées depuis Ouagadougou, d'après le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. L'ONU qui corrobore que la menace du Covid-19 met en péril le travail humanitaire, alors que les réfugiés dépendent désormais presque entièrement de l'aide extérieure pour survivre.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia et de Michel Zotek à la mise en œuvre. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.